Il est 17h46. Vous êtes à l'écoute de En profondeur à CKUT. Et puis, nous passons maintenant à la chronique Daily du McGill. Et nous avons en studio Joseph, Thomas et Gwen. Bienvenue.
Merci.
Merci, merci. Bon, moi, c'est Joseph Beaujus. Je suis le rédacteur en chef du Daily français, le journal francophone de l'Université McGill, qui existe depuis 1977. On est publié chaque mardi, donc on est disponible sur le campus et puis on va tenir, on remercie d'ailleurs En profondeur, on va tenir une chronique hebdomadaire sur les articles qu'on va publier dans la semaine. Donc je suis venu accompagner aujourd'hui, de Thomas Birzan.
Bonjour, moi c'est Thomas, donc je suis en charge de la section art et culture du Daily français et comme a dit Joseph, on publie toutes les semaines et on est très heureux de venir ici cet après-midi pour vous faire part en exclusivité de certains de nos articles.
Et je suis aussi venue accompagnée de Gwen Duval.
Bonjour, moi je m'occupe des réseaux sociaux et de la coordination web au Daily.
Alors pour cette première édition, on va commencer par vous lire une lettre ouverte de notre nouvelle chef de section société qui nous a fait la grâce d'un gentil billet d'humeur sur notre rapport avec la cigarette. Alors j'en commence la lecture sitôt. Ça s'appelle « Rendons grâce au calumet de la paix ». Intertitre, McGill s'acharne sur les fumeurs. Au printemps dernier, alors que sortir son briquet ne rimait enfin, l'administration de l'université a décidé de nous jeter en car il n'est plus possible de fumer sur le parvis de McLennan. Ce saint lieu du travail abritait autrefois ailleurs qui, après avoir communié des heures avec leurs course packs dans le silence inquisiteur de la bibliothèque, refaisaient le monde avec une cigarette à la main. Nous étions évidemment bien loin de ces images traumatisantes de sortie de lycée français, de laquelle émane un épais nuage de tabac issu de l'effort collectif d'une centaine de prépubères. Non. Fumer devant McLennan était juste un acte en petit comité pour recharger son niveau de productivité, se plaindre ensemble du poids de nos ambitions, se rencontrer, discuter, débattre intelligemment, étendre son réseau le temps d'une taf et certes, peut-être, un peu procrastiner. Nous n'étions pas qu'un club fermé, affilié directement à la diaspora française. Tout le monde était accueilli, Belmont au bec ou pas, et les briquets s'échangeaient avec générosité. Les non-fumeurs étaient toujours conviés à cette sauterie improvisée, et sous l'hiver montréalais, croyez-le, ils pouvaient respirer. Aujourd'hui, cette petite place de convivialité est vide. Elle est rendue aux mains de la nostalgie. Nous autres, fumeurs sociables, nous devons marcher, nous tenir debout dans un coin inconfortable et tenter de recréer cet environnement inspirateur sur un bord peu abrité de McTavish. Pour vivre heureux, nous vivons cachés. Le Québec s'acharne sur les fumeurs. Depuis 2006, le fumeur n'est plus qu'un clandestin dans sa province, un exclu de la société québécoise. Il n'a plus le droit de fumer dans les espaces publics intérieurs, même dans les espaces anciennement réservés pour ceux qui avaient décidé que l'oxygène y était fade. Il doit s'éloigner à 9 mètres de certains bâtiments et s'offrir sans défense aux pires intempéries pour avoir droit à son élixir. Il ne peut même plus se retrouver dans une réunion de congénères tout fumeur s'il organise ça en dehors de sa demeure. Et on lui a même ôté son droit à aspirer un peu d'esthétisme, parce que quand on regarde la tronche des paquets de cigarettes actuels...
C'est vrai.
Le monde s'acharne sur les fumeurs. Après les barbares, les nobles, les soviétiques, les riches, les fumeurs sont devenus les nouveaux ennemis de l'humanité. L'OMS a récemment lancé une nouvelle offensive politique qu'elle appelle « Pour un monde sans tabac ». C'est un programme, un manifeste pour l'extermination du clopeur. Pauvre espèce. L'OMS demande l'augmentation de taxes pesantes sur les consommateurs de tabac et lance une véritable propagande avilissant le fumeur. Déjà à Tokyo, Moscou et Istanbul, il est interdit dorénavant de fumer sur la place publique. Pourtant, l'envie de s'enivrer de fumer n'a longtemps dérangé personne. Au contraire, durant des décennies, il était beau, courageux, excentrique, branché, moderne, celui qui entre ses dents tenait la fameuse tige. Aujourd'hui, il est important de le défendre. Celui qui, contre tous, ne courbe pas le dos et crie haut et fort son désir primaire de vivre comme il en a décidé. Laissons aux libertés et aux petites dérives une raison de perdurer, s'il vous plaît. Et laissons aux ambitieux et aux détracteurs le plaisir vain de nous critiquer. Alors voilà, c'était une petite chronique de Julia Denis. On va passer maintenant à la rentrée littéraire. Thomas Birzan et Baptiste Reiner nous ont concocté un dossier spécial pour la rentrée littéraire et je crois qu'on va avoir droit à quelques recensions, c'est ça ?
Exactement, on va lire dans un premier temps un petit article qu'on a reçu sur l'amour et les forêts d'Éric Reynard et puis ensuite on passera au gros événement qui est Price, hein, le dernier roman sorti chez Monsieur Toussaint L'Ouverture. Et donc Gwen va nous faire la lecture de cet article, ce qui est une petite notice en fait à l'image d'un médicament. Est-ce que vous devriez lire ce livre ou non? On va le savoir tout de suite.
Déjà, il faut commencer par le commencement. Veuillez lire attentivement cette notice avant de découvrir ce roman. Elle contient des informations importantes pour votre lecture.
Qu'est-ce que L'amour et les forêts et dans quel cas est-il conseillé?
Le nouveau roman d'Éric Reinhardt est une tragédie domestique racontant l'histoire de Bénédicte Ombredane, professeure de lycée, maman de deux enfants et harcelée moralement par son mari. Il s'agit d'une histoire poignante sur la descente aux enfers d'une femme, tiraillée entre ses angoisses les plus profondes, sa dépendance et son besoin fondamental de liberté et d'émancipation. L'amour et les forêts est donc avant tout un récit fascinant sur l'autodestruction qui nous plonge dans les contradictions intrinsèques à chaque individu. Il est conseillé à tous.
Quelles sont les informations à connaître avant de lire L'amour et les forêts?
Ce livre, événement de la rentrée littéraire, les Unrock en ont quand même fait leur une pour ne citer qu'un seul exemple, a été écrit à partir de témoignages de lectrices qui ont confié à l'auteur leurs souffrances quotidiennes. C'est après avoir écouté le récit d'une inconnue, lors d'un voyage en train, qu'Éric Reinhardt se décide enfin à raconter leur histoire. En résulte un réalisme frappant qui renforce l'impact que ce roman peut avoir sur le lecteur. Faites attention, si votre expérience personnelle a été marquée par toute forme de maltraitance psychologique, ce livre pourrait vous bouleverser.
Comment lire L'amour et les forêts?
La posologie sera établie librement par le lecteur. Cependant, prévoyez un peu de place pour ce roman dans votre emploi du temps. En effet, sa construction sous forme de thriller psychologique risque fort de vous rattraper et pourrait ainsi bousculer vos plans.
Quels sont les effets indésirables éventuels?
Comme tous les livres, L'amour et les forêts peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde. Dans de rares cas, entre une personne sur 1000 et une personne sur 10 000, la lecture de ce roman pourrait vous mettre d'humeur antisociale, de par son côté à la fois sombre et captivant. Très rarement, moins d'une personne sur 10 000, y compris cas isolés, la première partie du roman pourrait vous décourager. Elle est effectivement quelque peu narcissique et maladroite, puisque l'écrivain se met en scène lorsqu'il rencontre Bénédicte Ombredane, mais ressent le besoin de se justifier en affirmant que ce n'est pas dans ses habitudes et qu'il n'est pas un croqueur de lectrice. Si vous parvenez à passer au-dessus de ce point, Éric Reinhardt pose là des questions néanmoins intéressantes sur le rapport entre l'écrivain, l'écriture et le lecteur. Le romantisme et l'idéalisme de l'héroïne pourraient vous énerver. Pourtant, Éric Reinhardt revendique dans une entrevue son côté fleur bleue contre une vision du monde qui serait entièrement matérialiste, teintée d'hypervirilité. Pourquoi pas?
Auriez-vous quelques informations supplémentaires à ajouter?
Que contient L'amour et les forêts? Ce roman contient 368 pages d'un style efficace et précis, bien que quelquefois empoulé. Éditeur Gallimard, paru le 21 août 2014.
Merci beaucoup Gwen. Je ne sais pas si ça vous a donné envie de le lire, mais on le recommande ici au Daily. Passons donc à Price, ce petit bijou qui a été publié chez Monsieur Toussaint L'Ouverture, qui, encore une fois, frappe fort et frappe juste, comme de coutume. On se souvenait, hein, c'était le grandiose Carou qui nous avait mis la puce à l'oreille. Puis, en février dernier, le cinglant et cinglé Mailman. On se remettait tout juste du récit de ce facteur fiasco que débarque, en ces temps de rentrée littéraire, un nouvel arrivant, Price. Le tout premier roman, jusqu'alors non traduit en français, de Steve Tessich, à qui l'on devait déjà le dit Carou. Alors Price, c'est donc l'histoire du jeune Daniel Boone, un adolescent paumé, fraîchement diplômé et en manque de réel, en manque d'expérience aussi, à l'instar de ses deux meilleurs amis, Larry et Freud. C'est aussi l'histoire d'un été, celui qui clôt les années du lycée et amène à l'âge adulte. Première passion, première rencontre avec la mort, prise de conscience sociale. Tessich condense, réinvestit et réactualise avec brio un genre qui a tant façonné la littérature et l'imaginaire collectif, le roman d'apprentissage. Car c'est avant tout dans le traitement temporel de l'été, ce temps hors du temps, qui révélait tout le génie de l'auteur. Price, on me le disait ce matin, c'est un peu comme un Marinetti dans un hopper, hein, de l'accélération dans un temps suspendu. Daniel n'a pas de ciel vert sur la promenade. Il habite à East Chicago, banlieue industrielle et prolétaire. D'un côté, l'usine et ce qu'elle symbolise, hein, la paralysie sociale, l'impossibilité des tentatives de suite, l'impossibilité du transfuge. De l'autre, la maison, sa morosité, véritable anesthésiant émotionnel et libidinal. Alors dans l'interstice, Daniel aime. C'est l'histoire de cette passion, impure, nous dirait Rilke, du genre qui ne s'empare de vous que d'une partie de vous et vous déchire. Pour Rachel, nouvelle venue dans le quartier, que déroule Steve Tessich, avec cruauté clinique et incisive. Une scène superbe, Celle de la première expérience sexuelle du personnage principal, immédiatement suivie d'un passage à tabac. L'on a rarement vu Eros et Thanatos si majestueusement entremêlés. Mmh. Thésée nous offre ici une narration arythmique parfaitement maîtrisée, une sorte de shuffle qui donne sa cadence au roman. Les deux premiers temps de la mesure, ce sont les visites que Daniel rend à sa dulcinée, Rachel. Le troisième temps, ce sont les appels du père, malade, depuis l'hôpital. C'est à travers ce personnage réduit que Thésée se fait chroniqueur acerbe de la désorientation tutélaire. Price, c'est un roman froid qui frémit, du genre qui boue, majestueusement, à zéro degré. L'on le recommande vivement.
Merci Thomas pour cette très belle recension. Alors juste pour vous rappeler, l'article qu'on a lu en deuxième avec les deux voix, celle de Thomas et de Gwen, c'était un article signé Inès Palas. Voilà, bon, on espère que ça vous a plu et on a hâte de vous reparler bientôt sur les ondes de CKUT.